J'ai été élevé dans une famille où les traditions et certaines superstitions étaient fortes. Tout devait se faire d'une certaine manière et pas d'une autre, et il ne fallait surtout pas poser la question pourquoi, ni suggérer une autre façon de faire, parce que ce genre de réflexion aurait été considéré comme un soulèvement du bas peuple. Et comme c'était moi, l'aîné du bas peuple, c'est contre moi qu'étaient dirigées les foudres de la haute autorité. Dans mon petit village, on allait au catéchisme tous les jeudis et on se conformait aux rites en vigueur à cette époque. Arrivé à l'adolescence, j'ai commencé à me poser de sérieuses questions existentielles parce que le système religieux dans lequel je me trouvais ne me satisfaisait pas. Le prêtre de service de cette période de ma vie était né à la fin du 19e siècle, donc il était de la vieille école et très traditionnaliste. Alors évidemment, il n'appréciait guère qu'on lui pose des questions qui auraient pu sembler être une menace pour le statu quo. Mais comme le hasard de Dieu fait bien les choses, mon intérêt pour le sexe opposé m'a conduit un jour dans un groupe de jeunes où j'ai eu l'occasion d'entendre une prédication à laquelle je n'ai rien compris. Cependant, après cette prêche, quelqu'un de mon âge est venu me parler et m'a montré un passage de l'Évangile selon saint Jean qui répondait à mon interrogation du moment. Interloqué, j'ai lu cet Évangile dans sa totalité. Mais bien que l'histoire de Jésus m'était vaguement familière, je ne comprenais pas grand-chose à ce que je lisais. Pourtant, le peu que j'ai compris a suffi pour que je persévère dans ma recherche. Mais je me suis vite retrouvé dans une situation désagréable parce que j'ai senti que je devais choisir. J'étais devant Jésus qui disait être le chemin, la vérité et la vie, et c'était comme s'il me demandait si oui ou non je l'acceptais comme tel. Je me sentais tiraillé, presque écartelé entre mon éducation religieuse traditionnelle et la découverte que je venais de faire. Ce n'était pas une décision facile à prendre parce que je me rendais bien compte que de croire en Jésus avait des implications étendues qui allaient remettre en cause mon passé, mais aussi mon avenir. Je me suis senti coincé parce que j'étais persuadé que Jésus était qui il disait être dans les évangiles, mais j'avais peur des conséquences dans ma vie. D'un autre côté, je me suis dit que si Jésus était la vérité, l'accepter était la seule alternative raisonnable. Sur le papier, ça semble très simple, mais j'ai dû batailler avec moi-même avant de finalement accepter Jésus comme mon Sauveur et Seigneur. C'est alors qu'il s'est passé quelque chose. C'était comme si mes yeux s'étaient ouverts et je savais que j'avais trouvé ce que je cherchais. Comme prévu, je suis parti à Nancy pour faire des études. Je me suis alors jointe au GBU, le groupe biblique universitaire, et j'ai commencé à fréquenter l'église évangélique qui nous prêtait une salle pour nos réunions du GBU. J'ai aussi été confronté aux témoins de Jéhovah, aux Mormons, et un groupe bizarre appelé les Enfants de Dieu, ce qui a suscité quelques interrogations et de l'hésitation, parce que bien que je lisais et aimais la parole de Dieu, je la connaissais très mal. Cependant, et sans que je puisse mettre le doigt dessus, il me semblait que quelque chose clochait avec ces sectes chrétiennes. J'avais aussi une sorte de conviction que la façon dont les évangéliques présentaient Jésus expliquait la raison de sa venue et la valeur de son sacrifice et collait bien avec l'enseignement des Écritures. Je continue à lire dans le chapitre 4 de la première épître de Jean. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Verset 4. La capacité des croyants à discerner les mensonges n'est pas due à la supériorité de leur intelligence ou de leur perspicacité naturelle, mais au fait qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux. L'apôtre Paul écrit « Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Paul n'a pas adressé ses paroles à des gens supra-spirituels, bien au contraire. Il écrit aux Corinthiens qu'il appelle « charnels et bébés en Christ » parce que leur comportement laissait grandement à désirer. Pourtant, ils avaient le Saint-Esprit en eux comme n'importe quelle personne qui a placé sa foi en Jésus. Nous n'avons pas besoin qu'un ange apparaisse, nous accompagne et nous dise ce qu'il faut croire ou ne pas croire. Étant donné que le croyant a reçu le Saint-Esprit, il est éduqué par lui au travers de l'enseignement des Écritures, et c'est grâce à lui qu'il est capable de distinguer entre ce qui est de Dieu et le mensonge qui vient de l'esprit du monde. Si un croyant est trompé par un faux prophète, c'est entièrement de sa faute. Soit il le veut bien parce que pour une raison ou pour une autre ça l'arrange, soit il a négligé l'étude de la parole de Dieu et il ne peut donc s'en prendre qu'à lui-même. L'apôtre Pierre écrit « Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire !» Progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Quand il était encore sur terre, Jésus a promis à ses disciples qu'il leur enverrait un conseiller, un précepteur, un accompagnateur en la personne du Saint-Esprit qui rendrait témoignage de lui, qu'il leur rappellerait son enseignement et qui les guiderait dans toute la vérité présente et celle à venir annoncée par les prophètes. Le croyant vit dans un monde qui lui est hostile parce que c'est Satan qui mène la danse, toutes les danses, dans tous les domaines de la vie, car rien ni personne n'échappe à son contrôle, sauf les fidèles du Seigneur. Dans les Écritures, le diable a plusieurs noms et titres. Littéralement, il est appelé le prince de ce monde, le dieu de ce siècle et le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire le chef des hordes démoniaques que Paul définit aussi comme les esprits méchants qui habitent les lieux célestes. Grâce à l'action du Saint-Esprit dans sa vie et parce qu'il aime la vérité et qu'il a reçu la capacité surnaturelle de la reconnaître, l'enfant de Dieu est protégé contre les mensonges et les séductions qui abondent autour de lui. L'apôtre Paul écrit « Or nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Celui qui a cet Esprit peut lui juger de tout. » Il est vrai que tous les croyants ne partagent pas les mêmes convictions sur tous les points doctrinaux. Par contre, ils sont tous unanimes sur les questions fondamentales et en particulier sur ce qui concerne la personne et l'œuvre du Christ. Ils ont tous reçu le même esprit qui les unit et par lequel ils sont en communion les uns avec les autres. Ils ne se laisseront donc pas tromper par de fausses doctrines qui déprécient Jésus ou la valeur de son sacrifice, d'une manière ou d'une autre, et qui prônent un salut par des accomplissements humains et des rites. La mort du Christ était nécessaire et elle est suffisante pour le pardon de tous les péchés de tout homme. Mais celui qui voudrait y ajouter son grain de sel la rend caduque à son égard. Dieu ne tolère aucune concurrence. Un jour, un musulman a exprimé le désir de recevoir Jésus comme son sauveur. Après avoir prié, il a dit « C'est merveilleux, maintenant j'ai Mohammed et Jésus ». Eh bien non, Jésus ne fait pas partie des divinités domestiques alignées sur une étagère et qu'on emporte avec soi comme porte-bonheur. Ce musulman avait peut-être Mohammed, mais il n'avait pas Jésus. Je continue le texte. Les prophètes de mensonges sont du monde. C'est pourquoi leurs paroles viennent du monde et le monde les écoute. Verset 5. Jean utilise la répétition du mot « monde » pour bien le mettre en valeur. Il apparaît à la fin du verset précédent et trois fois dans celui-ci. Les faux prophètes animés par des esprits de mensonge dont ils ne sont pas forcément conscients ont pour source la façon de penser de leur époque qui, en tant que système, est sous la domination de Satan, le prince de ce monde. Alors bien sûr, ils ont généralement plus de succès que les vrais croyants, car le diable passe devant eux, déblaye le chemin et leur ouvre la porte, pour ainsi dire. Certes, tout le monde ne suivra pas le même gourou, mais n'importe quel charmeur et beau parleur pourra se constituer un cercle de disciples. Comme il en faut pour tous les goûts, Satan dispose d'une étagère bien garnie de divinités, de doctrines, de démons en tout genre. Chacun a l'embarras du choix et tous ceux qui sont endurcis contre la vérité doivent choisir un dieu tiré des cartons diaboliques. La neutralité n'existe pas dans ce domaine, et ceux qui clament « ni Dieu ni diable » se leurrent, car tout le monde adore quelque chose. Pour ceux qui ont choisi de suivre Jésus-Christ, le monde ne leur est pas favorable, et ils se le mettent à dos chaque fois qu'ils veulent annoncer la personne de Jésus. Si vous habitez une démocratie, au nom de la sacro-sainte liberté de pensée et de culte, on ne vous persécutera pas ouvertement, mais on vous fera quand même des misères morales. Et ce sera sournois, comme des sourires en coin et des moqueries sous le manteau, des problèmes de famille, la mise à l'écart, la perte de vieux amis ou la voie de garage dans le travail. Jésus a dit à ses disciples « Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendriez, mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Et l'apôtre Paul a dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Il savait ce qu'il disait puisque lorsqu'il a fait cette réflexion, il était sur le banc des condamnés à mort. Je continue le texte de 1 Jean. « Nous, nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, mais celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. De cette manière, nous pouvons distinguer l'esprit de la vérité de l'esprit de l'erreur. » Verset 6. Jean parle ici au nom du groupe des apôtres et met en avant leur enseignement que ses lecteurs ont entendu au commencement de leur vie chrétienne. La parole de Dieu a toujours été le meilleur moyen de différencier l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ceux qui acceptent la parole de Dieu appartiennent à Dieu et ceux qui la rejettent sont contre lui. Le compteur Geiger sert à détecter les ondes radioactives alpha, bêta, gamma et les rayons X dans le sol ou dans une roche. Eh bien, on peut utiliser les Écritures de la même manière. Car je ne sais pas si quelqu'un appartient à Jésus-Christ, j'introduis dans la conversation des vérités qui ne se trouvent que dans la parole de Dieu et j'attends la réaction. Si la personne a reçu le Saint-Esprit, elle réagira positivement à ce que j'ai dit, sinon elle sera contre ou indifférente. Ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est quand même utile. La révélation écrite de l'Ancien et du Nouveau Testament est le seul outil et la seule autorité qui permettent de juger une idéologie, qu'elle soit spirituelle, scientifique, économique et même politique. En France, nous sommes en démocratie, mais ce n'est qu'un pis-aller, car le meilleur système de gouvernement est un roi bienveillant au pouvoir absolu. Le problème est qu'ils sont rares et qu'il faudra donc attendre la venue du Messie et roi des rois et l'établissement de son royaume millénaire. Dans un monde où les enseignements erronés et les fausses valeurs pullulent, les croyants doivent continuellement tester ce qu'on leur présente comme la vérité ou ce qu'il y a de mieux avec ce que disent les Écritures sur ce sujet. Je continue le texte. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Versets 7 et 8. C'est la cinquième fois que Jean s'adresse à ses lecteurs en les appelant « bien-aimés » et c'est la troisième fois dans cet épître qu'il aborde l'amour pur et vrai. Il a déjà dit que les croyants qui s'aiment véritablement entre eux prouvent par là qu'ils sont en communion avec Dieu et qu'ils appartiennent au Père. Ici encore, Jean emploie le mot qui décrit l'amour-sacrifice qui est accordé sans condition et qu'il faut différencier du sentiment de l'amitié, des liens familiaux et de la sensualité. Jean ne parle pas d'aimer autrui, son père et sa mère, sa femme, son mari ou ses enfants, mais les frères et sœurs dans la foi. Les croyants qui sont en communion avec Dieu ont cette capacité de manifester un amour désintéressé et pur, pour les autres certes, mais surtout pour leurs frères. Quelqu'un dira « j'en aime certains, mais pour d'autres c'est plus difficile ». Oui, mais c'est déjà un pas dans la bonne direction. Cependant, il est possible et nous sommes exhortés d'aimer tous les frères, y compris ceux qui sont d'un caractère difficile, et surtout s'il s'agit de votre patron. Cependant, Dieu ne me demande pas d'aller me pendre au cou de tous les croyants que je rencontre, mais d'être prêt à les assister s'ils sont dans le besoin et si je peux les aider d'une manière ou d'une autre. Le plus souvent, il s'agit simplement de prendre le temps de leur rendre visite et de les écouter. Nous vivons dans une société très individualiste et cette caractéristique a la fâcheuse tendance à se retrouver dans les assemblées chrétiennes. Celui qui aime est né de Dieu. Le verbe « est né » signifie « a été engendré ». L'amour d'un croyant pour ses frères et sœurs dans la foi est la conséquence normale d'avoir été engendré par Dieu parce que Dieu est amour, ce qui m'amène à me demander combien de gens savent et croient que la nature de Dieu est d'aimer. La pauvre femme dans la détresse qui, en sacrifice pour ses péchés, jette son bébé dans le Gange pour qu'il soit dévoré par les crocodiles, c'est elle que le Dieu créateur est amour? Et les indigènes qui dans la jungle sont terrorisés par les esprits de la forêt, qu'ils essayent en vain d'apaiser par toutes sortes de rites et d'incantations, savent-ils que Dieu est amour? Et le français moyen qui essaye de joindre les deux bouts, qui pense aux vacances et à la femme du voisin, que connaît-il de l'amour de Dieu? Nous, au moins, nous en avons entendu parler parce que ça fait partie de notre culture occidentale. Mais au fait, d'où vient cette idée? On ne la trouve nulle part dans la littérature antique. L'amour de Dieu est un concept qui est inconnu jusqu'à ce que Dieu commence à dire, par Moïse, le juge Samuel et les prophètes, qu'il aime Israël. Mais le peuple choisi n'y a pas cru. Enfin, Jésus est venu pour prouver que Dieu nous aime, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Par contraste, Jean dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu ». Les religieux juifs de l'époque de Jésus ainsi que les hérétiques du temps de Jean qui s'étaient infiltrés dans l'Église en savaient long sur Dieu, mais ne le connaissaient pas. Leur haine sanguinaire était semblable à celle de Caïn qui tua son frère Abel. Dieu est amour explique la raison de la création de l'homme. L'Éternel voulait partager son amour infini avec des êtres qui puissent le comprendre et l'aimer en retour. Mais comme l'amour se donne librement, Dieu a créé l'homme libre de choisir ou de rejeter l'amour que Dieu lui porte. Quand Jésus a défini le plus grand commandement, il a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force ». L'amour de Dieu explique évidemment la rédemption. Jean écrit « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition » et qu'ils aient la vie éternelle. C'est aussi par amour que Dieu pourvoit aux besoins de ses créatures, même de celles qui le rejettent. Cependant, après la mort, cet amour fait place au jugement. Enfin, Dieu a un amour particulier pour tous ceux qui ont fait confiance à son Fils. Êtes-vous de ceux-là ?